les chroniques bioéthiques du professeur Rosmini. Une exploration cinématographique de questions contemporaines qui nous concernent tous. Vous,
moi,
nous, pour aujourd'hui et demain. Notez bien.
Les chroniques bioéthiques du professeur Rosmini.
Vous voyez ce gars-là ? C'est moi. Ma dégaine n'a qu'une seule excuse. Je suis écrivain.
Eddie, tu devrais peut-être abandonner l'écriture.
Mais n'allez pas croire qu'il ne m'arrive jamais rien.
Eddie Mora !
Salut !
Ça avance ton bouquin ? T'en as écrit combien de pages ?
Aucune, pas même un mot.
T'inquiète, je pense que je peux arranger ça. Tu sais que t'as accès à seulement 20% de ton cerveau ? Ce truc te permet d'utiliser 100% de ses capacités. Ils ont testé la molécule et la FDA l'a approuvé.
Juste parce que je suis curieux de nature, hein, et c'est tout.
J'étais aveugle et j'avais recouvré la vue. Un cachet par jour, et je n'avais plus de limite. J'avais désormais soif de culture.
Et depuis quand tu parles italien ?
J'avais fini mon livre en 4 jours.
Je voudrais renégocier mon acompte.
Je comprenais l'intérêt des maths.
De 12 000 à 2 millions 3 en 10 jours.
Il me laisse perplexe, ce gars. Alors, monsieur Mora, vous savez que vous êtes un ovni. Quel est votre secret ?
Chers auditeurs, bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais évoquer le désir qu'ont les hommes depuis longtemps de modifier leur activité mentale en modifiant leur activité cérébrale. Alors depuis très longtemps, les humains la modifient par la chimie. Alors la chimie qui a fait beaucoup de progrès, hein, bien sûr, qui s'est précisée ces dernières années. Et puis ces dernières années sont apparues aussi d'autres manières de modifier l'activité cérébrale, par exemple les ondes électriques qui agissent directement donc, sur le cerveau, et puis aussi, plus récemment encore, les manipulations génétiques. Notamment CRISPR-Cas9, le fameux ciseau génétique, donne à cet égard des perspectives à ceux qui rêvent de neuro-amélioration ou de neuro-augmentation ou de cerveau augmenté. Alors, la question que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la question de savoir si nous devons attendre justement des neurotechnologies qu'elles nous rendent plus intelligents. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, si on pose la question comme ça, il faut poser la question du sens du mot « intelligence » et « intelligent ». Alors, pour développer cette question, je m'appuierai aujourd'hui sur un film de Neil Burger qui est sorti en 2011 et qui s'appelle « Limitless ». Limitless, donc, qui signifie sans limite, et je voudrais me demander avec vous si vraiment, en fait, le personnage de ce film, grâce à la neuroamélioration, vraiment transcende les limites de l'humanité. Alors, donc, le film raconte l'histoire d'un écrivain un petit peu raté, joué par Bradley Cooper, donc le personnage s'appelle Eddie Mora, qui n'arrive pas à produire, qui a plutôt comme ça une figure de loser dans la société, puis qui un jour, par hasard, découvre des pilules, la pilule de NZT48 précisément, et ce sont des pilules qui rendent super intelligents. Alors déjà, c'est intéressant de voir comment Neil Burger, le réalisateur, exprime cette augmentation de l'intelligence par des moyens esthétiques essentiellement quantitatifs. Voilà, pour Neil Burger, pour montrer que Eddie Mora devient plus intelligent, il faut du plus, du quantitatif. Alors, ça va plus vite, c'est plus net, l'écran est plus large, enfin du moins l'angle de vue est plus large, il y a plus de couleurs. Donc, on est immédiatement dans une perspective, justement, quantifiable, quantitative. Et d'ailleurs, Mora, à un moment du film, se vante d'avoir un QI à 4 chiffres. Autres chiffres qui sont cités dans le film, il est dit que, alors que nous sommes censés nous servir uniquement de 10 ou 20% de nos capacités cérébrales, les pilules de NZT48 permettraient d'atteindre les 100%. Alors bon, d'abord, il faut savoir que c'est totalement faux. Hein. C'est un mythe complet. Le mythe selon lequel nous n'utiliserions que 20% de nos capacités cérébrales est démenti par toutes les études en neurosciences. Mais bon, c'est un mythe qui a la vie dure et en tout cas qui est au centre de ce film, voilà, où soi-disant, donc Mora atteindrait les fameux 100%. Alors, pour revenir à la question de l'intelligence, donc ce qui est intéressant, c'est de distinguer ce qui dans l'intelligence peut éventuellement être mesurable et ce qui n'est pas mesurable. Or, bien évidemment, pour des raisons qu'on peut imaginer, les neurosciences et donc aussi les neurobiotechnologies s'intéressent surtout à ce qui est mesurable. Bien, puis pour voir si c'est augmenté, il faut pouvoir mesurer. Et la mesure aussi, elle donne toujours une apparence de scientificité, de rigueur, d'objectivité. Ici, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'intelligence, dans le film Limitless, elle est essentiellement conçue sous un angle instrumental, comme capacité qu'on a à adapter des moyens à des fins. Par exemple, la fin de d'Eddie Mora va être rapidement d'être très très riche. Voilà, sa fin principale dans tout le film, c'est gagner beaucoup beaucoup d'argent. Et donc, grâce à son intelligence mathématique, il va gagner au poker. Donc, il va dire les mathématiques s'avérèrent bien utiles, dit-il à un moment du film. Alors, c'est intéressant parce que dans l'histoire de l'humanité, les mathématiques ont souvent tenu leur prestige justement qu'elles n'étaient pas utiles. Ce qui fait la grandeur des mathématiques pour Aristote, par exemple, c'est justement que les mathématiques ne sont pas soumises à une finalité, à une fin. Le désintéressement, le caractère gratuit de l'activité mathématique dans laquelle l'esprit humain en fait ferait reculer l'impensable, dans laquelle l'esprit humain développerait ses facultés les plus hautes, et bien lui donnerait sa beauté propre. Or ici, on a une vision purement instrumentalisée de l'intelligence mathématique. Donc ici, il y a déjà deux définitions de l'intelligence, me semble-t-il, qu'il faut distinguer. La première, c'est une définition un petit peu justement basique, qui serait la capacité à s'adapter, et notamment la capacité à adapter des moyens à des fins. Intelligence, disons, instrumentale. Et puis de l'autre, l'intelligence, ça pourrait être aussi la capacité à juger de la valeur et de la signification des fins. Et on voit que là, il y a deux définitions qui sont très différentes. Et de fait, Eddie Mora, dans le film Limitless, apparaît comme un personnage très, très, très adapté à la société dans laquelle nous vivons, puisque, comme je vous l'ai dit, d'abord, son but, c'est de devenir de plus en plus riche, son but à peu près unique. Et c'est vrai que notre société insiste beaucoup là-dessus. Donc, son but, ça va être aussi de consommer des objets de luxe. Bon, il vit dans un univers qui fait un peu penser à certaines émissions de télé-réalité, hein, puisque bon, c'est un luxe plutôt kitsch quand même dans le film tel qu'il est présenté. Et puis ensuite, vers la fin du film, bien sûr, il va aussi vouloir conquérir le pouvoir politique. Voilà, mais là aussi, le pouvoir politique, il semble vouloir le conquérir non pas pour améliorer le monde ou la société, mais pour lui-même. Alors, finalement, la vie d'Eddie Mora dans Limitless apparaît exactement comme ce que Socrate appelait une vie sans examen. Parce que Mora, d'une certaine manière, réfléchit beaucoup. Enfin, il réfléchit en termes stratégiques, en termes instrumentaux. Mais il ne doute jamais, en fait. Et puis, dans le film, il ne prend jamais, apparemment, le temps d'examiner la valeur de sa propre vie. Alors ça pose vraiment cette question aussi de qu'est-ce que l'intelligence et qu'est-ce que la valeur. Parce qu'il faut que vous sachiez aussi, vous le savez d'ailleurs peut-être déjà, que la plupart des recherches aujourd'hui sur la neuroamélioration, la neuroaugmentation, elles sont faites dans un contexte militaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans un contexte militaire d'avoir un cerveau augmenté? Que signifie le mot augmenté ici? C'est de rendre par exemple le soldat moins fatigable. Voilà, un meilleur soldat, c'est un soldat qui se fatigue moins. Un soldat plus obéissant. Voilà, ça c'est être augmenté dans un contexte militaire. Un soldat aussi peut-être moins empathique, qui va pouvoir exécuter des ordres sans ressentir une empathie excessive pour les gens qu'il est censé tuer, par exemple. Donc, le cerveau augmenté, c'est le cerveau efficace. Mais bien évidemment, on voit que ici, la notion d'augmentation, elle est très discutable, puisqu'elle est reliée à des finalités. À des finalités militaires en l'occurrence. Et donc le cerveau augmenté n'est pas une notion objective. La notion d'augmentation cérébrale, elle n'a de sens que par rapport à des valeurs, que dans un contexte particulier. Et donc, évidemment, elle ne peut pas revendiquer une quelconque neutralité. Pour revenir à Mora dans le film Limitless, on se dit pourquoi est-ce que quelqu'un d'aussi intelligent ne pense qu'à s'enrichir et pas, par exemple, à régler les problèmes de la faim dans le monde, ou du réchauffement climatique, ou à régler les problèmes des guerres? Voilà, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas de la diplomatie? Et là, on ne sait pas trop, en fait, évidemment. Et à cet égard, les intentions du film lui-même, les intentions du réalisateur ne sont pas très claires. On ne sait pas, finalement, s'il veut nous montrer que la vie d'Eddie Mora est enviable parce qu'il réussit. Enfin, il réussit en tout cas selon les normes de la réussite qui sont dominantes dans la société dans laquelle il vit. C'est-à-dire qu'il devient très riche, célèbre, il a des voitures de luxe, etc. Mais à la fois, on ne sait pas si cette vie a une valeur, en fait. On ne sait pas si on peut s'identifier à lui. Finalement, le film de Neil Burger apparaît un petit peu comme un film miroir, d'une certaine manière. C'est-à-dire c'est une manière aussi de nous interroger, nous, sur nos propres valeurs, sur ce qui donne du sens à notre existence. Par exemple, dans le film, il est assez évident que Eddie Mora n'a pas d'amis. Voilà, il n'y a pas de relation d'amitié. Donc, il est peut-être très intelligent, mais il ne semble pas avoir d'amis, ce qui quand même peut poser question. Alors, par contre, voilà, comme je l'ai dit, il est hyper adapté à un contexte d'hyper concurrence, puisqu'il fait du business. Hein. Et donc, dans ce contexte d'hyper concurrence, effectivement, dans cette poursuite effrénée du profit, on se rend compte assez rapidement, en fait, dans le film, que la plupart des gens qui réussissent prennent aussi du NZT 48, c'est-à-dire sont aussi dopés neurologiquement. Et alors ça peut faire penser à un avis, l'avis 112, précisément du Conseil Consultatif National d'Éthique, que vous trouverez facilement sur Internet. Vous tapez CCNE et puis vous tapez avis 112. Et dans l'avis 112, qui justement parle de neuroaugmentation, de neuroamélioration, Il est évoqué des études selon lesquelles, effectivement, la plupart des gens qui prennent des produits de neuroamélioration ou qui voudraient bidouiller leur cerveau avec de l'électricité sont des gens qui, justement, évoluent dans des contextes hyper concurrentiels. On peut faire ici un parallèle avec le dopage dans le sport, dans le cyclisme, par exemple. Voilà, si on fait du vélo pour le plaisir, on ne se dope pas. Mais si on veut faire de la compétition, c'est difficile peut-être de ne pas le faire. Par exemple, dans l'avis 112 du CCNE, il est noté que 25% des étudiants en médecine avouent avoir pris des produits pour doper leur capacité cérébrale. Il y a 25% qui l'avouent, il y en a peut-être plus, on ne sait pas. En tout cas, ici, bon, on le voit encore une fois, la définition de l'intelligence est extrêmement relative à un contexte, là aussi. Et plus le contexte est concurrentiel, et plus on va avoir envie de développer en nous certaines capacités cognitives et pas d'autres. Donc, il apparaît évident qu'il serait quand même assez dangereux d'espérer que les neurotechnologies nous rendent plus intelligents. Alors pourquoi ? D'abord parce que, je l'ai un petit peu dit, les neurotechnologies et l'augmentation cérébrale, elles reposent sur une vision très fragmentée du psychisme humain. En fait, on isole toutes les capacités cognitives, on favorise celles qui sont mesurables, comme je l'ai dit, et puis on augmente celles-là, mais peut-être au détriment des autres. Et on survalorise ce qui est mesurable et chiffrable, peut-être qu'on néglige d'autres capacités qui font aussi l'intelligence humaine. Je pourrais en citer quelques-unes. La capacité à créer de la beauté, par exemple. La capacité, comme je disais tout à l'heure en citant Socrate, à s'interroger sur la signification de notre existence. La capacité à porter un regard critique sur nos idées, sur nos représentations, sur nos modes de vie. La capacité à inventer collectivement des nouvelles formes politiques, des nouvelles formes de vie collective, de vie politique. Eh bien, toutes ces capacités, on le comprend bien, elles sont impossibles à chiffrer. Elles sont impossibles à mesurer. Il n'y a pas de QI pour mesurer la capacité à s'interroger sur la signification de son existence. Et comme elles sont impossibles à chiffrer, elles restent très en dehors de ce contexte et de cette idée de neuro-augmentation. Pour terminer cette chronique, je vous signale juste que dans le livre que j'ai consacré à ces questions bioéthiques et dans la façon dont le cinéma s'en empare, je parle de notre film, un film de Michel Gondry, qui s'appelle Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et dans ce film, alors, il ne s'agit pas vraiment d'augmenter le cerveau, mais plutôt en fait de soustraire des choses au cerveau, puisqu'il s'agit d'une machine à effacer les mauvais souvenirs. Voilà, donc dans ce film, la question, ce n'est pas faut-il attendre des neurotechnologies qu'elles nous rendent plus intelligents, mais plutôt faut-il espérer que les nouvelles neurotechnologies garantissent notre bonheur. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention.
Vos facultés sont un don de celui qui a écrit le scénario de votre vie. Je vous ouvre une ligne de crédit, vous aurez besoin d'un ou deux gadgets.
Combien de gens ont l'occasion de devenir la version sublimée d'eux-mêmes ?
Elle vaut combien ?
12,5 millions.
Je l'achète.
Je veux partager tout ce que j'ai avec toi.
Qu'est-ce que tu fais ? Tu crois que quelqu'un te surveille, chérie ?
Mon cerveau perd la notion du temps. Je n'ai aucun souvenir des 4 derniers jours.
Vos dons ne sont pas mérités. Vous nous coulerez avec de tels pouvoirs. Vous êtes-vous demandé ce qui se passera quand vous serez à court ? Vous mourrez. Il n'y a pas de scénario dans lequel vous pourriez mener cette vie sans travailler pour moi.
Ah non ?
J'en vois plein de scénarios, j'en vois au moins 50 et c'est ça mon atout, Carl. Ça me donne 50 coups d'avance sur vous.
Est-ce que le risque en vaut la chandelle ?
Que feriez-vous ?
Les chroniques bioéthiques
du professeur Rosmini
à retrouver sur radiogrenouille.com.